Salut, vous êtes bien sûr Détournement Féministe. Il y a 2 mois, on vous avait diffusé la première partie d'un triptyque radiophonique sur l'hétéronormativité réalisé par 6 camarades féministes. Et aujourd'hui, on vous propose d'écouter la suite. Dans la fin du 2e épisode, elles abordent la question des modèles, notamment dans la littérature jeunesse. Vous entendrez donc la fin de cet épisode. Puis dans le 3e épisode, elles partagent leurs tentatives et stratégies pour sortir de l'hétéronorme et ouvrir d'autres imaginaires. On vous souhaite une bonne écoute, et pour retrouver toutes les informations sur ces émissions, n'hésitez pas à aller voir notre page sur le site de Radio Campus.
Hétéronormativité et crotte de nez.
Sérieux.
Franchement, tu vois une émission qui s'appelle Hétéronormativité et crotte de nez, tu cliques, tu y vas.
C'est ça en 3 épisodes, ouais.
De 20 minutes. C'est pas long,
ça va.
Un bal patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas ça.
Transgresser l'hétéronormativité en situation d'enseignement.
L'hétéropatriarcat, c'est caca.
Frotter, il faut payer. Qui sauvera l'enfant queer? Le plan B?
Hétéronormativité
et crotte de nez.
Et crotte de nez.
Bonjour, nous sommes Flora,
Violette,
Céline,
Claudia,
Mathilde,
Béné,
6 meufs, Gwyn, lesbiennes, principalement blanches, mères et non-mères, intervenant à l'école, au lycée, à la fac, dans des associations d'éducation populaire, avec des adultes.
Nous nous sommes retrouvés en août 2019 aux 7e rencontres de pédagogie féministe qui avait lieu cette année-là à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. On a le point commun d'être féministe et en situation de transmission ou d'animation avec différents groupes de personnes de tous âges. Ce triptyque radiophonique prolonge les échanges entamés lors d'un atelier sur l'hétéronormativité.
Sans vouloir dire la fin, ce qui nous a plu dans cet album, c'est que c'est pas l'histoire principale, parce que là, certes, il y a cette histoire entre Mireille et Magali, mais après, toute la bande de laquelle elles font partie continue leur voyage, et du coup, c'est ça qu'on trouvait intéressant, que ce soit pas justement comme deux lesbiennes qui ont des enfants ou 2 PD qui ont des enfants et une famille et où ça prend toute la place ou juste c'est toute l'histoire de... Enfin voilà, que du coup ça arrive comme ça et ça repart comme c'est arrivé mais juste c'est là et du coup ça fait plaisir que ce soit là quoi.
Et je crois que là on peut parler de responsabilité éducative dans le sens où nous, en fait moi c'est un peu des choses comme ça que j'aurais voulu voir en étant gamine, enfin je me rends compte maintenant hein, avec mon regard d'adulte, d'avoir juste des histoires où au lieu d'être un prince et une princesse, c'est autre chose. Et aussi des femmes seules et fortes, je pense à la Reine des Neiges 2, je vais pas spoiler, mais où quand même elle est super puissante, même si elle a un physique de Barbie. Et en fait, je pense que ça, c'est les modèles que j'ai pas beaucoup eu et que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux choisir d'acheter ces types d'albums aux enfants qui m'entourent. Mais ça demande vraiment d'aller les chercher, quoi, d'aller repérer, d'aller demander, que les libraires ou les bibliothécaires soient formés et sachent de quoi on parle. Enfin, voilà, ça demande tout un travail proactif, quoi.
Ouais, c'est vrai que là, en faisant le tour d'un certain nombre de librairies, c'était pas si évident... Même de librairies jeunesse spécialisées, c'était quand même pas si évident. On m'a dit, si, il y en a plein au rayon ado. Et quand j'ai demandé à voir le rayon ado, c'était là, ah, mais en fait, quand même, vous me posez une colle. C'est quand même finalement, ça nécessite de chercher. Enfin bon, c'était quand même pas ça à fond. J'ai quand même trouvé 2 autres albums, alors qui concernent plutôt l'homosexualité masculine, parce que c'est aussi ça, c'est que finalement, des représentations de l'homosexualité masculine, il y en a aussi plus que féminine, mais il y en a 2 que j'ai trouvé qui sont sympas aussi. Il y a Un jour mon prince viendra, et du coup c'est un crapaud qui attend d'être délivré pour être transformé en prince, et il y a plusieurs princesses qui se présentent, et ça marche jamais, jusqu'à ce que... un prince arrive.
Ah, super.
Voilà, et du coup, je trouvais ça pas mal de retourner ce stéréotype-là. Donc, c'est de Agnès Laroche et Fabienne Brunner. Et il y a Ça change tout de Cathy Itak et Daniela Tieni qui est chouette aussi et qui du coup là plutôt joue sur les normes du rapport au corps et des normes de genre. Voilà, avec toute une histoire entre deux personnes que du coup on imagine plutôt être un garçon et une fille, et aussi avec un jeu sur les prénoms et qui se dévoile autrement à la fin, mais je vais pas vous en dire plus. Je vous invite à le lire, ça s'appelle donc Ça change tout, c'est à l'atelier du poisson soluble.
Moi je voulais bien ajouter une autre recommandation, alors c'est pas un album jeunesse, mais c'est un bouquin pour ados que j'ai lu qui est trop bien, ça s'appelle Dysfonctionnel, et c'est de Axel Sandre, je crois, qu'elle s'appelle, l'autrice. Et en fait c'est une famille complètement dysfonctionnelle, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une ado qui vit dans une famille, elle a genre 4-5 frères et sœurs. Et son père, il tient un bar, mais régulièrement, en fait, il va en prison parce qu'il magouille un peu, je sais pas, il blanchit de l'argent. Enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, il passe du temps en prison. Sa mère, elle se prostitue et elle fait des séjours à l'hôpital psy. Et en fait, c'est pas du tout un livre triste, hein, contrairement aux apparences, c'est hyper drôle. Et il se trouve que, du coup, la narratrice... elle a aussi une histoire d'amour avec une fille, mais pareil, c'est pas forcément le sujet principal du livre. Mais en tout cas, ça montre d'autres modèles de famille, et c'est hyper, hyper intéressant, hyper drôle, hyper touchant. Dysfonctionnel, ça s'appelle.
Merci. Et il y a aussi d'autres albums quand même qu'on m'a conseillé dans ma petite recherche. Il y a qui concernait l'homosexualité féminine. Il y avait aussi Je me marierai avec Anna. Qui est en rupture de stock, et La princesse qui n'aimait pas les princes, et enfin Titirites, un autre album, mais du coup ceux-là j'ai pas eu l'occasion de les avoir entre les mains puisqu'ils n'étaient finalement pas disponibles en librairie.
Je vais bien faire une recommandation, toujours dans cet aspect, c'est pas le centre de l'histoire, on fait pas de la pédagogie ou d'éducation à la tolérance, c'est une escale du clan du lierre en 2 volumes de Louise Jour, et les personnages peuvent tomber indifféremment amoureuses de filles, de garçons, il y a des personnages on n'identifie pas tellement si ce sont des filles ou des garçons, et c'est pas le cœur de la trame narrative, donc je trouve intéressant et sympa.
Est-ce que sur les modèles, vous avez d'autres envies de partage ?
Moi, j'aurais bien voulu donner une dernière référence dont on a parlé un peu les unes et les autres spontanément, c'est les bandes dessinées de Tilly Walden, on en a reparlé là tout à l'heure. Et alors, ça présente des couples de femmes et tout ça, mais surtout dans un dont j'ai oublié le titre, où elles vivent des aventures dans l'espace, et ben en fait, il n'y a pas du tout de personnage masculin. Et c'est pas du tout questionné ni expliqué, juste c'est comme ça. Et donc on s'avance dans... Alors ça veut pas dire que tout le monde est une femme, mais en tout cas on s'avance dans cet espace-là où il n'y a pas d'hommes. Et toute l'histoire se passe là-dedans, et en fait c'est présenté comme un fait. Et ça permet le déploiement aussi du coup d'autres figures de femmes, et de jeunes femmes aussi. Et c'est assez chouette, je trouve. Je sais pas si t'as envie d'en parler, Claudia, parce qu'on en a parlé ensemble.
Non, pas beaucoup plus, mais moi j'avais lu une précédente BD de cette même BDiste qui en fait parle de l'âge de l'adolescence et qui est sur le patin à glace, et ça s'appelle Spining, et en fait c'est sur ça aborde en fait la question en fait de l'identité sexuelle à l'adolescence, avec en toile de fond bah du coup les enjeux de patin à glace, mais aussi les enjeux de choix en fait qui se font, quels sont les choix qu'on fait pour nous, et comment on se construit dans l'enfance et à l'adolescence, et du coup voilà, il y a donc ça s'appelle Spining, et donc c'est Tilly Walden.
Trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry, when she says everything is fine, over her head clouds that look like mines, oh why can't she wish for brighter skies. Peace.
On enchaîne vers une autre partie de cette émission sur à quoi ça servirait d'avoir des modèles et pourquoi est-ce qu'on convoque ces modèles-là aujourd'hui, pourquoi on parle de ça.
Moi, une réflexion que j'avais en discutant de ça avec vous avant, c'était de me dire des fois, je sens bien que si je me réfère à mon adolescence, c'était chouette que je vois chez des profs, par exemple, ou des intervenantes ou des animatrices, un trouble dans le genre et dans l'identité sexuelle et tout ça. Et donc moi, je pourrais jouer ce rôle-là face à des collégiens, collégiennes ou lycéens, lycéennes, ou même des adultes. Et du coup, des fois, je suis tentée de le faire, et en même temps, ça m'insécurise. Et ça me... J'ai pas forcément envie de me outer dans plein d'endroits où j'interviens. Et je me rappelle l'avoir fait à des moments parce que en fait les jeunes m'ont posé la question directement et je me suis sentie d'ouvrir là-dessus, même si c'était des jeunes qui avaient des propos vraiment très homophobes, quoi. Vraiment du genre il faudrait ouvrir les chambres à gaz et il faudrait tous dégazer, quoi. Et après ils m'ont questionné moi, donc du coup je me suis dit bon bah c'est insécurisant d'y aller, mais ok, j'y vais. Et puis peut-être ça permet de dire qu'on parle de vraies personnes, et quand tu dis qu'il faut tous les tuer, ben en fait tu parles de moi, la personne qui suit en face de toi, donc ça humanise quelque part son propos, quoi. Et je crois que cette jeune, je pense à cette jeune-là en particulier, ça l'a fait bouger. Mais il y a des fois où je me dis, ben voilà, je pourrais jouer un modèle autre, et pourtant, ben il y a plein, je pense, il y a plein de moments où je le fais pas parce que je trouve ça pas confortable ou insécurisant, ou des fois ça me va de jouer l'hétéro par défaut. Enfin, je sais pas. C'est pas si simple que ça en tout cas.
Moi, je veux bien dire un mot aussi. Pour réagir à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a des moments, peut-être, même sans dire je suis lesbienne ou sans saouter et tout, en fait, on apporte des choses, peut-être de manière même inconsciente, que ce soit dans les réflexions ou les contenus de ce qu'on transmet, ou même l'apparence qu'on a, etc. Et je sais pas si ça sert de modèle ou pas pour les élèves ou les gens qui sont en face de nous, mais en tout cas, juste. Enfin, le fait d'être là, d'être visible et d'être à une place où on est quand même en situation de transmission et donc regardé par plein de gens qui nous voient et qui nous écoutent, etc. Bah, je pense que c'est pas rien en fait du tout, et que même sans se revendiquer lesbienne ou quoi, je pense que ça a un impact quand même et que ça joue, quoi, mine de rien.
Il y avait une autre lecture sur laquelle on voulait ouvrir, qui est issue de La contrainte à l'hétérosexualité de Adrienne Rich.
Alors, je vais lire juste un tout petit extrait. C'était « Essayer en tant que femme de voir à partir du centre une politique qui consiste, ai-je écrit naguère, à poser les questions qui sont celles des femmes. Nous ne sommes pas la question de la femme que poserait quelqu'un d'autre, nous sommes les femmes qui poserons les questions. »
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette citation ?
Ouais, moi je veux bien. On en a un peu parlé, mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a des situations d'enseignement où la question de faire son coming out à la classe se pose même pas, en fait. Parce qu'on n'est pas là en tant que personne individuelle, et donc, à la différence des discussions de machine à café, personne ne parle de ses enfants dans ce cadre-là. Mais par contre, on est amené à faire l'histoire de groupe, par exemple. Enfin, moi, je donne des cours... à la fac, et je peux être amenée à faire l'histoire de certains lieux, l'histoire de certains groupes, et à des moments de pouvoir dire ce groupe dont je pourrais être un représentant, ce groupe qui n'est pas toujours un groupe minoritaire, donc un autre extérieur, qui n'est pas présent ni dans la salle de classe, ni parmi les enseignants. Je pense que c'est aussi ça, proposer un modèle, c'est-à-dire à un moment aussi proposer une incarnation, soit pour l'opposer à une violence qui est hyper forte, comme tu disais, voilà, si tu dis faut les brûler, en fait tu dis faut te brûler toi, faut me brûler moi, donc ça peut être une arme dans le débat, mais je pense aussi pour les étudiants, ça peut être aussi ancré dans le fait que ça concerne des personnes réelles, et que parmi nous dans la classe, il y a ces minorités dont on fait l'histoire, et dont on fait l'histoire en tant que pouvant être assimilé à ce groupe ou se reconnaissant dans ce groupe, quoi. Mais en pratique, c'est pas si simple, et je trouve que dans la phrase d'Adrienne Rich, comme ça se pose la question des femmes, donc voilà, ce n'est pas la question des femmes, mais nous sommes des femmes qui posons des questions. Dire nous les femmes dans la classe, c'est des fois complètement absurde, quoi. Et donc si je pense qu'il y a, puis il y a des marques qu'on en fait partie de ce groupe des femmes, mais après comment faire, c'est pas toujours simple, quoi.
Sur la question de pourquoi a-t-on besoin de modèles, je voudrais juste aussi amener
le fait que moi j'aurais eu besoin, j'aurais aimé avoir des modèles de lesbiennes racisées, puisque moi je suis française d'origine algérienne, et quand c'est compliqué d'avoir une double casquette, j'ai envie de dire, tu vois, tu peux être arabe, ça va, tu peux être lesbienne, ça va, mais lesbienne et arabe, voire lesbienne arabe et écologiste, t'as perdu beaucoup de gens, quoi. Donc ça m'aurait aidé et j'aimerais pouvoir contribuer à ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, d'avoir des modèles qui soient intersectionnels.
Oui, qui soient des modèles positifs, comme on disait avant, enfin des modèles où c'est pas la personne qui meurt le premier dans le film, c'est une personne qui va vivre des trucs chouettes et enthousiasmants. Et nous, si on a des vies qui sont chouettes, et ben on peut être ces modèles-là pour d'autres personnes. Mais effectivement, ça pose des fois une certaine insécurité, quoi, de le poser. Et du coup, cette question du nous, moi, je sais que des fois, je me retrouve à animer des questions, des débats sur l'homophobie ou sur l'hétéronorme. Et en fait, si je dis nous, enfin, si on parle des personnes concernées en disant il ou elle, ou si je dis nous, ben en fait, je vois bien que je suis pas à l'aise avec ce truc-là et que je switch tout le temps entre. Puis finalement, je finis par dire nous, et tant pis, ça veut dire que je me out devant toute la salle, quoi. Mais récemment, je l'ai fait, quoi, en disant bon, bah là, je vais pas tourner autour du pot, je dis nous, et en fait, comprend qui veut, mais voilà, donc ça pose ces questions-là, quoi.
On va se quitter sur toutes ces questions en suspens et ces perspectives d'intersectionnalité et de recherche de modèles, quoi. Je pense qu'il n'y en aura jamais assez et que dans tous les cas, c'est important de multiplier les supports et d'aller vers de plus en plus de modèles et d'oser à des moments les proposer sans faire les vecteurs aussi, les vectrices, pour permettre à plein de gens qui n'oseraient pas ou qui seraient dans des grands questionnements d'avoir des petits bouts de réponse parfois. Sur ces belles paroles, à bientôt. Look at them. Tell me what you see over there, dancing in the sea, free from all worries, laughing at me. If you say it's a mystery, well, I will say easy, but I agree, no,
Dans ce troisième épisode, nous partageons nos tentatives et nos stratégies éprouvées ou à créer pour sortir de l'hétéronorme. Bon, qu'est-ce qu'on a essayé? Qu'est-ce que ça produit quand ça marche? Et aussi, comment on se donne d'autres idées? Comment on ouvre l'imaginaire ensemble? C'est parti. Peut-être la première question, c'est un peu comment on en parle? Comment on parle de soi? Comment on parle en général?
Comment on parle de soi? Ça fait peur comme question.
Bon, c'est
elle est bien, non, c'est très très bien. Mais c'est...
On a parlé tout à l'heure, voilà, dans l'épisode précédent, comment est-ce qu'on fait quand on fait l'histoire d'une minorité et on se trouve qu'on est un des membres de cette minorité, quoi. Mmh. Est-ce qu'on tente le nous les lesbiennes? Bah voilà, on peut le tenter. Il y en a qui le tentent, c'est pas toujours concluant. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies un peu de cet ordre pour faire exister aussi dans le langage, quoi, dans la façon de parler?
Bah, dans le langage, effectivement, c'est de moi ce que la stratégie que j'adopte avec les groupes, c'est que j'anime, c'est systématiquement proposer l'hétérosexualité comme une option, c'est-à-dire s'il y a une discussion autour de la vie de famille, par exemple, une femme s'exprime et je lui pose la question, ok, on va s'imaginer que t'es avec, donc c'est ton compagne, c'est ça, ton compagne, ta compagne ou ton compagnon, je pose la question comme si c'était une évidence que ça pouvait être l'un ou l'autre. Et ce qui est rare et ce qui n'est pas souvent fait, je pense, vu l'étonnement, le sourcil levé des personnes. Voilà, quand on interroge cette norme et qu'on repose des choses comme l'hétérosexualité comme une option parmi d'autres. Bon, évidemment, ça, j'imagine que vous le faites.
L'homosexualité.
Non.
J'ai dit.
À l'hétérosexualité.
Ouais. Mais oui, voilà, tu vois. That is the point.
Ok, it's an option.
Et puis, évidemment, mais c'est tout bête parce que je pense que dans les milieux féministes, on est tellement habitués à toujours, pas toujours, mais en tout cas à essayer de dire le féminin, le masculin, d'avoir un langage inclusif. Mais pour plein de gens, c'est tout à fait révolutionnaire. Il y a des gens qui, à la fin des formations, c'est déjà arrivé plusieurs fois, viennent me remercier. C'est vraiment, je te remercie d'avoir utilisé le féminin ou d'avoir utilisé le point médian pour féminiser les adjectifs, par exemple. Et voilà, pour nous, c'est d'une banalité confondante. Mais rien que ça, pour plein de gens, ça ouvre. Donc, ça commence par des petites choses comme ça. Enfin, voilà. J'imagine que vous avez des choses également.
Je crois qu'il y a aussi, justement, quand le mot couple arrive, donc par exemple, je sais pas, moi je fais des scénettes de théâtre forum, par exemple, où on doit convoquer des situations ou parler de situations et que les gens disent oui, alors c'est un couple, blablabla. Et du coup, moi je dis donc c'est un couple hétérosexuel, enfin, comme si en fait c'est ce truc de la puissance de la norme dont on a parlé dans le premier épisode, mais en fait on dit jamais c'est un couple hétérosexuel qui est dans une voiture et qui va faire ça. En fait, on aurait dit c'est un couple de deux hommes ou c'est un couple de deux femmes. Mais là, la personne, c'est la puissance de la norme, c'est que on le nomme même pas, quoi. Et du coup, j'essaye de rebondir en disant, donc c'est un homme et une femme, alors pour que la personne se, enfin, c'est d'évidence pour cette personne-là que quand elle dit couple, il s'agit bien d'un homme et d'une femme, mais voilà, la forcer à préciser, quoi.
Bah moi, c'est un peu les mêmes petites stratégies, mais c'est par exemple dans les énoncés, comme je suis prof, dans les énoncés de juste pas mettre des situations trop normées, genre du coup je sais pas, pour un truc chiant du genre calculer le revenu d'un ménage, bah en fait on n'est pas obligé de prendre un ménage où il y a un homme, une femme et des enfants, on peut prendre une femme seule ou deux femmes ou deux hommes, enfin je sais pas, du coup je me tripe à juste changer les énoncés pour mettre des situations hors de la norme. Après les élèves réagissent pas trop en général, enfin je veux dire, je suis même pas si s'ils trouvent ça bizarre, mais en tous les cas, ça donne d'autres modèles, quoi.
Ah oui, je suis étonnée, j'avais posé la question. Les élèves ne réagissent pas, deux femmes, deux hommes, t'as pas de questions là-dessus?
Non, en général, pas trop, non.
Cool.
Après, moi, j'ai l'impression vraiment assez fort que de simplement proposer l'option, c'est déjà se visibiliser soi-même. Enfin, si on en parle, par des... Enfin, implicitement, c'est qu'on est concerné.
Oui,
et ça fait partie, je pense, d'un des modes de visibilité que moi j'aime bien. C'est-à-dire, on ouvre les options subtil, parce qu'on est à la bonne position pour ouvrir. Ouais, assez subtil, ouais. Mais je trouve ça assez chouette. Et les effets de reconnaissance, du coup, avec des pairs, ils sont hyper forts sur des trucs comme ça. C'est-à-dire, si tu poses cette option, c'est que tu es ouvert dessus et on va. Enfin, si la question, c'est d'être là en tant qu'enseignant ou prof et de pouvoir être sollicité s'il y a besoin parce qu'il y a des questions sur ça. Pour un des étudiants, un des élèves, ben, je trouve que voilà, en ouvrant les options, on ouvre aussi la possibilité d'en parler, quoi.
Ah ouais,
et de venir nous chercher, quoi.
Moi, je le vois vachement dans le fait, notamment quand je dis que quand je me présente, donc j'anime des groupes d'adultes, je dis que j'ai deux enfants que j'ai eu dans le cadre d'un couple hétérosexuel, et donc je ne dis pas autre chose. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui, à partir de là, enfin que ça ouvre, que ce soit des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et qui se reconnaissent ou me reconnaissent ou on se reconnaît, je sais pas. Et puis je pense que ça fait effectivement lever un sourcil et s'interroger, mais pourquoi elle le précise? Et ne serait-ce que de faire poser cette question, pourquoi elle le précise, je trouve ça déjà, enfin j'ai déjà atteint mon objectif. Après, voilà, les gens ils se racontent les histoires qu'ils ont envie de se raconter, mais au moins on interroge la norme, quoi.
Il y a un questionnaire qui interroge pas mal cette norme. C'est un questionnaire qui pose justement des questions plutôt à destination des personnes hétérosexuelles. Pour savoir dans quelle mesure elles ont été, comment elles ont découvert leur hétérosexualité, etc. Ce questionnaire, il est en réaction aux questions qu'on pose habituellement aux personnes homosexuelles.
D'où pensez-vous que puisse provenir votre hétérosexualité ?
Ou bien encore, quand et dans quelles circonstances avez-vous décidé d'être hétérosexuel ?
Se peut-il que votre hétérosexualité ne soit qu'une phase difficile et troublante à passer ?
Se peut-il que vous soyez hétérosexuel parce que vous craignez les personnes du même sexe ?
À qui avez-vous avoué votre hétérosexualité ? Comment ont-ils réagi ?
Pourquoi toujours parler d'hétérosexualité ?
Hein ? Vraiment, c'est pénible.
Voilà. Et ce questionnaire-là, il me fait penser au fait qu'il y a eu un... Quand j'étais étudiante à Paris, il y avait un prof, dont je ne sais pas le nom, mais ça a été hyper marquant pour moi, qui faisait un cours à l'EHESS sur toute l'année qui s'appelait « Comment peut-on être hétérosexuel ?» Donc il y avait une séance par semaine, et juste l'idée que ça existe, c'était hyper important pour moi, quoi.
Et moi, ce que je trouve hyper important, et c'est aussi ce qu'on vit là, c'est le système de soutien et les échanges, hein, suite à l'atelier de cet été. Moi, j'ai fait beaucoup plus consciemment des choses que je faisais inconsciemment. Ça a mis de la clarté. Et du coup, je vois bien que ça décuple la puissance du truc de le faire consciemment. Et notamment, je voulais partager une de mes... de mes fiertés, j'assume. C'est que il y a une personne dans un établissement de travail social dans lequel j'intervenais qui a fait son coming out à 3 ans de la retraite quand même. Et elle était dans l'établissement depuis 20 ans, je crois. Et suite à un atelier où, je crois que c'était même pas dans le cadre vraiment de la transmission, mais qu'est-ce qui fait partie de la transmission? Qu'est-ce qui fait partie de ce qu'on est, ce qu'on incarne? C'était à l'heure du déjeuner. Et du coup, j'ai parlé, je sais plus comment, ce que j'ai dit, mais j'ai cité ça induisait que j'étais amoureuse d'une femme. Et on en a parlé comme si de rien n'était. Moi, je suis pas sur place, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Je pars, j'arrive, je repars. Il y a un petit effet Mary Poppins, quoi. C'est plus facile que même des profs qui sont dans un établissement, etc. J'en ai conscience. Ça me donne une liberté de parole. Mais oui. Et du coup, dans l'après-midi, lors d'un atelier, elle a parlé du fait qu'elle était lesbienne. Et moi, je ne suis pas dans le contexte de cette équipe. Donc, bon, voilà. J'étais contente. Voilà. Parce que c'est toujours agréable d'entendre des gens qui en parlent publiquement. Et elle m'a dit, quelques instants après, à la pause, que c'était la première fois qu'elle en parlait devant l'équipe. Et que, évidemment, qu'elle savait que tout le monde le savait, mais elle n'avait jamais osé le dire. Et du coup, je me dis, mais ça, c'est énorme, en fait. Parce que je suis en position de pouvoir en tant qu'animatrice de groupe. Et que, du coup, vu ce qu'on fait ensemble et la confiance que me donne le groupe, ça crée une confiance commune qui fait que ça donne de la sécurité, que les gens osent parler. Et du coup, voilà, merci aux rencontres de pédagogie féministe et à vous. Parce que c'est grâce à au fait d'échanger là-dessus et de pas avoir des pratiques toutes seules dans notre coin, quoi, qu'on ose plus, en tout cas que j'ose plus, moi. Et que ça permet à d'autres d'oser.
Que je me dis un peu là, on a pas trop parlé de la question du coming out en tant que tel, et c'est peut-être pas trop le sujet, mais moi, un truc qui m'interroge un peu et que j'aimerais bien pouvoir essayer dans d'autres expériences à venir, quoi, d'enseignement, c'est un peu comment le fait de nommer qu'on a envie, enfin qu'il y a de l'hétéronorme, que c'est oppressif en fait, à la fois pour les étudiants ou pour les élèves ou pour les enfants dont on s'occupe, en amont, avant que des sujets se posent. Ça pourrait permettre des alliances, notamment avec des gens dont on suppose qu'ils sont hétérosexuels et dont on n'est pas trop sûr pour se lancer si une situation se passe. Pour être un peu plus concrète, oui. Moi j'avais animé des ateliers avec des enfants sur une année. Donc moi j'étais une intervenante extérieure, je venais pas du tout pour parler des questions de sexualité et de genre, mais pour parler de questions de ville, de quartier, de représentation de l'espace. Et puis c'était des enfants, je les voyais tout le temps, et donc bien sûr il y a eu des choses qui sont sorties. Il y a une petite fille qui me faisait un peu des signes sur est-ce que quand on est une petite fille on doit faire plutôt ci ou on doit faire plutôt ça, genre toi qu'est-ce que t'en penses? Et donc des fois, moi j'ai un peu tenté, quoi. Oui, des filles elles peuvent faire du foot, mais j'ai jamais osé vraiment tenter, vraiment ouvrir d'autres possibles, vraiment dire mais oui, elles peuvent aimer des filles, les petites filles des fois elles peuvent changer de genre, enfin des fois elles sont pas à leur place, ou je sais pas quoi, en fait j'ai jamais osé nommer, parce que j'en avais jamais parlé avec l'équipe enseignante qui m'accueillait en fait dans la classe, et que j'avais l'impression de trop me mouiller, sans savoir s'ils allaient suivre, s'ils allaient relayer, ou s'ils allaient derrière censurer. Et donc j'ai l'impression que ça peut être aussi une stratégie, quoi. On en parle en amont, on dit voilà, ça peut se passer. Est-ce que vous êtes OK pour que on soit pas sexiste, enfin pour sentir un peu les autres et peut-être en faire des alliés. J'ai l'impression que ça peut être une des stratégies, même si c'est en pratique, je sais pas trop comment, mais j'ai l'impression qu'à chaud c'est des fois trop tard, quoi.
Moi je pense que ça se passe dans plein de moments du quotidien, notamment, enfin parce que moi je suis enseignante à l'école primaire et que du coup les enfants je les ai 24 heures par semaine sur toute l'année, et que du coup c'est des choses qui s'explorent aussi sur la durée, et que du coup ça se passe dans plein de petits moments, au même titre que les questions de sexisme, pour le coup on les travaille beaucoup, ces questions là plus liées aux questions d'orientation sexuelle, elles sont plus difficile à saisir aussi parce que ça arrive moins souvent, mais c'est arrivé que un peu par hasard on ait une information sur la Gay Pride qui arrive en classe parce qu'on regardait les infos une fois par semaine et qu'il y a ça qui tombe et que d'un coup on se mette à en parler et que ça fasse un sujet comme tous les autres sujets qui avaient été là tous les lundis où on regardait les infos ensemble, quoi, et que du coup ça c'était chouette parce que ça arrivait comme ça et hop, c'était la vie et le monde extérieur qui arrivait, et puis on parlait de transidentité, de femmes qui s'aiment, d'hommes qui s'aiment, enfin voilà. Et du coup j'avais bien aimé ce moment-là de classe comme un truc voilà, en fait c'est la vie et on en parle comme on parlerait d'un autre sujet, et du coup voilà. Et je pense que c'est à plein de petits moments en fait, et que juste c'est arriver à capter ces moments-là, et en effet si on n'est pas seul maître ou maîtresse à bord de pouvoir les avoir anticipés, mais du coup d'imaginer que en fait il y a plein de moments où on peut faire ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Enfin là, tu vois, c'était dans le cas où c'était des ateliers, c'était pas à propos de ça, mais en fait ouais, les gens qui sont voilà, les enfants là, c'était des enfants, mais pour les étudiants adultes c'est pareil, ils les posent ces questions parce qu'elles les travaillent en fait.
Moi j'aime bien cette idée en tout cas, que ça ne soit pas à propos de ça, comme dans l'épisode précédent où on parlait de la littérature qui n'était pas, où le sujet principal c'était pas l'homosexualité, mais voilà, que c'était transversal et justement du coup normal. Le fait de moi, je, même si c'est pas du tout le sujet qui nous occupe, de citer des lois, de citer, je sais plus, la dernière fois je parlais de du fait que l'homosexualité était pénalisée en France jusqu'en 82, etc. Et de le placer comme ça, parce qu'on parlait de la question des valeurs et que les valeurs, elles étaient contingentes d'une époque et d'un lieu, etc. Et du coup, je ne sais pas, je pourrais jamais savoir, mais je gage que ça a joué. À la fin de la journée, une dame vient me parler de sa fille lesbienne. Donc c'est juste le fait qu'elle voit, ah tiens, il y a de l'ouverture, ah tiens, c'est un sujet qui la préoccupe, comme d'ailleurs je le fais pour le racisme. Mais du coup, voilà, on peut, je sais pas, j'ai l'impression que le fait de ne pas invisibiliser ou de ne pas reléguer la question de l'hétéronormativité juste à la lutte contre l'homophobie, mais de l'amener de plein de manières différentes, comme tu disais par rapport au quoi de neuf, enfin aux infos, et bah ça ouvre vraiment, ça autorise, c'est encore une fois la permission que ça donne en fait.
Et moi, ce qui m'a marqué à l'atelier qu'on a fait ensemble cet été, et dont là, c'est la suite, et là, je me tourne plus vers justement les camarades qui ont des élèves, par exemple, une dynamique de classe à tenir toute l'année. C'est vrai qu'en tant qu'intervenante extérieure, ben voilà, on peut jouer sur l'effet de surprise, on a moins, enfin, c'est peut-être plus facile. Ouais. Et que du coup, je me demande comment vous faites, ou est-ce que ça vous met en danger s'il y a un truc qui est plus clair sur vous en tant que personne lesbienne ou personne queer à cette place-là? Est-ce que ça, c'est un truc que vous voulez pas du tout, ou est-ce que je dis ça parce qu'à l'atelier cet été, effectivement, il y avait plusieurs personnes qui témoignaient de choses et qu'en fait ça se passait plutôt bien avec les jeunes, mais que c'était pas impossible qu'il y ait aussi des retours de bâton, et que plus on donne des choses de soi à un endroit où on doit tenir une classe toute l'année, et que les gens, enfin voilà, les élèves savent des choses, ça permet une identification pour certains, mais ça donne aussi des billes à d'autres, quoi. Et donc du coup, voilà, je me demande comment vous gérez ça, et même avec les parents d'élèves ou avec les collègues dans l'équipe éducative, enfin voilà.
Bah moi personnellement, du coup, c'est pas un truc dont je parle de manière on va dire explicite, quoi, parce que bah justement je sais pas trop. Je pense que les élèves, ils s'en fichent un peu, et qu'en fait, de toute façon, ils captent très bien les choses, et que... Enfin, je sais, de par... un peu... Enfin, je perçois que... Ils perçoivent que je suis pas hétéro, tu vois, il y a des indices, quoi. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a des choses qui me font dire qu'ils le savent très bien. Du coup, je ressens pas du tout la nécessité de rendre les choses plus explicites que ça. Et... Après, peut-être que ça pourrait... être risqué, entre guillemets, mais moi, je vois pas tant ça en termes de risque que plutôt, je sais pas, enfin, j'aurais du mal à m'imaginer comment le rendre explicite dans le cadre d'un cours, enfin, tu vois, si le sujet porte pas là-dessus, je vois pas pourquoi je viendrais le dire comme ça. Et du coup, je préfère passer par des choses détournées ou amener le sujet sur la question des normes de genre, par exemple, qui font partie du programme de ce qu'on doit enseigner. Donc là, clairement, je veux dire, je me mets pas en danger en faisant ça, parce que c'est ce qu'on doit faire, tu vois. Et du coup, je préfère partir sur des questions de ce type-là, tout en sachant très bien que les élèves perçoivent aussi, par exemple, que moi, je pense que je suis pas tout à fait dans les codes de la féminité, par exemple, tu vois. Et donc à mon avis, quand j'amène en plus le truc de la norme de genre est construite, etc., ils doivent bien se douter qu'il y a... Enfin, tu vois, que ça, je sais pas.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je préfère que ce soit... Enfin, pour ma part, je trouve ça plus simple de le faire comme ça que de rendre les choses trop explicites.
Moi, je trouve que ça dépend vraiment des contextes aussi. Et par exemple, moi, ces dernières années, j'enseignais vraiment dans un petit village ou qui était voisin du village dans lequel j'habite, enfin, et où du coup je trouve c'est aussi plus largement la question de comment je me préserve moi des espaces qui soient à moi, et c'est un truc qui est important pour moi, quoi, de pas tout mélanger ce que je vis professionnellement et ce que je vis dans ma vie personnelle. Et je pense que ce qui me fait plus peur, c'est les réactions au final des adultes. Et je pense que parce que finalement les enfants, ils s'habituent, et puis en fait ils nous connaissent bien différemment que leurs parents, quoi. Leurs parents, ils nous voient de temps en temps, et alors ils s'imaginent qu'on va mettre plein de choses terribles dans la tête de leurs enfants, et qu'en plus ils sont à notre contact régulier, enfin voilà, plusieurs, enfin pas mal d'heures par jour. Et du coup finalement c'est plus de ces réactions là que j'aurais peur, mais aussi dans un truc plutôt de peur qui est pas complètement rationnel, enfin. En tout cas, c'est pas que j'ai eu des remarques à ce sujet-là. Et l'année dernière, j'ai partagé ma classe avec une collègue qui, elle, avait une relation lesbienne dont elle parlait assez ouvertement, en annonçant que je vais m'installer avec ma compagne. Et en fait, je veux dire, elle a pas eu de réaction particulière, quoi. Et du coup, ça me faisait un peu aussi envie de me dire, ah, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut vivre de façon légère. Enfin. De façon, comme n'importe quel autre collègue hétérosexuel aurait aurait dit qu'elle allait rejoindre, s'installer avec son compagnon. Enfin, voilà. Et du coup, aussi d'en faire une sorte de non-sujet à ce niveau-là. Moi, ça m'avait en tout cas fait du bien que dans l'équipe, il y ait une personne qui porte ça. Et moi, comme j'étais justement pas dans un rapport de couple, c'était quelque chose que je pouvais pas porter de cette façon-là. Mais du coup, cette légèreté-là, je l'avais trouvée plutôt agréable et soutenante. Et ça faisait que c'était existant à cet endroit-là, quoi.
Un peu sur la question de tenir sur la durée, là, dans les mouvements de grève actuels. En fait, à mon université, on a décidé de faire la grève des cours et de proposer une université populaire. Et on s'est demandé, avec quelques collègues qui sont plutôt PD, si on proposerait pas un temps, je sais pas comment on l'appellerait, mais pas être hétéro et être à la fac, quoi. Et donc, c'est une façon de dire, nous, on est concernés, on a envie de parler de ce truc-là avec les étudiants, mais pas forcément dans le cadre du cours. Notamment parce que, moi, un des trucs qui me pose question, c'est... J'ai l'impression que ça se... Enfin, d'être un peu visible, de faire des signes, d'ouvrir des possibles, ouais. Après, dans le rapport quand même assez vertical des cours de l'université, notamment des cours magistraux, je vois pas trop le truc, quoi. Enfin, je pense que je peux pas faire un... Enfin, à la fois ma position située, d'où je m'exprime, etc., ça, c'est assez dit. Moi, je fais de la socio, donc je parle de ma position de classe, de ma position de genre, de ma couleur de peau. Enfin, ça, j'en parle. Ça, les étudiants, ils le savent et c'est nommé. Mais c'est vrai que sur la question de l'homosexualité, enfin, moi, ça joue pas trop dans mes cours. Ça a pas trop de sens de le faire dans un cadre vertical. Mais on se disait, voilà, on pourrait profiter de ce moment d'université populaire pour se visibiliser en tant que membre de l'institution et pas que. Et ouvrir un espace où on en parlerait sur un format horizontal, enfin en faisant autre chose, s'il y a des étudiants que ça botte, quoi. Et je me demande, on verra si ça se fait, mais c'est une de nos propositions, quoi. S'il y a des étudiants qui sont partants, je pense qu'on ira sur ça.
Et votre intention, c'est de questionner justement l'hétéronormativité,
collectivement. Ouais, c'est un peu, c'est pas sans lien avec ce qui se passe ici, c'est de dire, ouais, parlons-en, quoi. Ouais. L'hétéronormativité ambiante à la fac, ça nous concerne. On a envie d'en parler. Voilà. Est-ce que ça vous botte et de voir s'il y a un groupe d'étudiants et de faire un atelier. Mais moi, j'ai pas d'idée sur le format et j'aimerais bien pas être prof, quoi, sur un truc comme ça. Et même si j'aimerais bien aussi mettre en jeu, enfin, me servir de ma légitimité comme prof pour pouvoir le proposer et ouvrir l'espace si ça botte, quoi. Et qu'ensuite, je peux réserver une salle, par exemple. J'ai le droit de faire ça comme prof. Pour les étudiants, c'est plus compliqué, quoi. Mais c'est tout, quoi.
On a un témoignage qui sort un peu de l'hétéronormativité aussi. Comment des professionnels de l'éducation dans le cadre d'une école primaire se sont saisis de quelque chose qui se passait, du coup qu'on voulait partager. C'est un texte qui a été écrit à deux voix, donc par un enfant qui donc était scolarisé et par son père qui a transitionné. Et donc ce témoignage, il a été adressé à la directrice de l'école en question. Donc, un témoignage à deux voix sur tout ça qu'on vous propose de lire maintenant.
Je m'appelle K. Aujourd'hui, j'ai deux mères, un beau-père et un père qui s'appelle B. Je suis en troisième. Le collège, c'est pas le top, mais j'ai des amis et je vais bien. Quand j'étais en grande section de maternelle, mes parents se sont séparés. Et l'été de ma rentrée en CP, mon père a décidé de transitionner. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai eu de la chance d'être dans une école un peu spéciale avec des adultes qui ne m'ont pas regardé différemment et pour qui tout ça était normal. Moi, je n'ai pas vu de différence avant il n'y a pas longtemps. Tout le monde appelait papa Bérangère, elle accompagnait les sorties comme les autres parents et elle jouait du trombone à la fête de l'école. Je ne me souviens pas qu'on me pose des questions là-dessus, sauf les copains à la récré, mais c'était pas méchant. Moi, mon père, je l'avais toujours vu en robe à la maison, alors c'était pas très différent pour moi. Maintenant que je suis grand, et puis que j'ai déménagé de collège, je vois bien que c'était pas partout pareil. Je vois bien que quelquefois, c'est dur pour lui et pour moi. Je vois bien que quelquefois, j'aimerais qu'il soit comme les autres, mais ça serait plus mon père. Je suis en colère quelquefois, et c'est pas sa faute. Si vous parlez de tout ça à la radio, je voudrais que vous disiez que pour un enfant, son père, c'est son père, et puis c'est tout. Et aussi que c'est pas parce qu'il se sent femme qu'on peut lui manquer de respect. Je voudrais que vous disiez que le monde en dehors, c'est déjà bien assez dur pour un enfant pour pas qu'on en rajoute à l'école. Je voudrais que vous disiez que pour l'école, le plus important, c'était qu'il fasse son travail de père et qu'il n'en avait rien à faire de sa façon de s'habiller. Et c'est pour ça que je vais bien.
parce que l'école m'a laissé le droit d'avoir un père. Voilà.
B. J'ai toujours été une femme enfermée dans le corps d'un homme. J'ai eu une grande histoire d'amour avec A, et de cette histoire est née K. K, c'est un rayon de soleil dans ma vie. Il est arrivé à un moment où j'avais déjà commencé mon chemin vers la transition. Sa naissance, puis notre séparation d'avec sa mère, était indépendant de ce chemin. Lorsque j'ai pris la décision d'assumer pleinement ce choix et d'être qui j'étais vraiment, je savais que cela serait difficile. Je savais qu'il allait falloir tenir le coup fort. Lorsque K m'a dit qu'il avait annoncé ma transition au Quad 9, j'ai un peu paniqué. Je n'avais pas encore osé aller le chercher à l'école et je me demandais depuis des semaines comment aborder la question avec I. Ce jour-là, F m'a dit que I l'avait prise à part à la sortie des classes pour lui rapporter les propos de K, qu'elle avait ajouté qu'elle était disponible pour en discuter avec moi. Le lendemain, il y avait ton mail qui proposait ce rendez-vous. J'étais un peu inquiet, d'autant qu'en arrivant, vous étiez quatre. En fait, j'ai beaucoup pleuré, tu te souviens ? C'était tellement soulageant de s'entendre dire que j'étais bienvenue et comment on allait gérer ensemble pour que K soit bien. Ça a été un moment fort, et maintenant que j'ai rencontré d'autres équipes pédagogiques, je mesure la qualité de cet accueil qui n'a pas questionné mon identité, mais qui est resté centré sur ma place de père. Ce jour-là, vous m'avez donné cette place de père. C'est important. Notre famille est un peu en dehors du cadre habituel. Après ma transition, j'ai refait ma vie avec un homme et F a rencontré une femme. Nous sommes en très bons termes et avons continué à assumer notre parentalité avec nos nouveaux conjoints. La possibilité que nous avons eue de participer à la vie de l'école à quatre, de participer aux réunions de parents, aux accompagnements, au fait, comme tous les autres parents, a été, je m'en rends compte maintenant, une grande chance. Je voudrais témoigner parce que depuis, j'ai aussi eu l'occasion de parler avec d'autres parents, que ce qui a sûrement été décisif dans la scolarisation de K, c'est que vous ne questionniez jamais l'identité des adultes, mais seulement leur position de parent. Ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir pu discuter avec toi de ce que je voulais qu'il soit dit ou pas aux autres parents. C'est la place que j'ai eue pour poser mes mots et le professionnalisme avec lequel tu les as relayés. C'est la franchise avec laquelle I a discuté de ses questionnements sur le langage, les mots à utiliser. La possibilité d'avoir pu faire avec vous, d'avoir pu construire un environnement pour K qui soit serein et accueillant sans être intrusif. Pour moi, c'est ça la coéducation. Finalement, on vous a mis un peu au pied du mur, je m'en rends compte maintenant, et je sais que ça n'a pas été simple pour tout le monde. Mais vous avez tenu le projet malgré vos convictions personnelles, et en cela, vous avez permis à K d'avoir sa place d'enfant.
Waouh. Moi, je trouve que... Enfin, je sais pas si on réagit ou quoi, mais... Enfin, ça me touche vachement de l'entendre et je me dis... Encore une fois, c'est là qu'est la responsabilité éducative dans les places où on est, quoi. Et que ouais, cette famille-là, ils ont eu de la chance, mais ça devrait être la norme, mais on sait bien que c'est pas le cas, d'être dans une... Enfin, de tomber sur une équipe éducative plutôt ouverte, plutôt féministe, plutôt avec... avec des valeurs d'égalité autour de ça, quoi. Et je me dis, waouh, c'est cool, ça existe.
Je trouve ça hyper intéressant qu'elle propose cette distinction entre être parent, occuper une place de parent, et avoir une identité de genre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça un peu le nœud pour arriver à penser ce qui se passe, quoi. T'es parent, tu bouges dans ton identité de genre, c'est un peu deux processus qui sont dissociés. Et en fait, l'école, elle s'adresse à ta place de parent. J'ai l'impression que ça, moi j'ai jamais entendu ça, quoi. Enfin, aussi nettement dit. peut-être avant qu'on en finisse sur ce dernier morceau d'émission, on avait préparé un petit jeu où on pioche des situations où on a eu des soucis et où les unes et les autres, on peut tenter de trouver des solutions. Est-ce qu'on en joue ?
Tu fais un chapitre de ton cours sur l'émancipation des femmes. Il y a un passage sur les Gouines Rouges, le mouvement queer. Toi qui es concernée, héritière de ces luttes, comment tu le fais savoir ?
C'est le fameux « nous » ou « elle » ou « nous, on est bien contentes qu'elles aient fait ce taf-là ».
J'ai l'impression, tu vois, à force d'en avoir parlé là sur le « nous foireux », nous, les Gouines Rouges, ça marche pas, quoi, parce que c'est un exemple du passé, voilà. Mais par contre, ça pourrait peut-être être aussi de glisser un truc sur les actualités en s'incluant, quoi. Genre, éventuellement, quoi, de dire aujourd'hui des rebondissements ou des héritages même lointains, même questionnants, même des remises en cause, des reformulations actuelles. Par exemple, moi, il se trouve que, enfin, je me dis là, voilà, à force d'avoir touillé ce truc-là.
Et je trouve que c'est aussi la force du collectif et des rencontres de pédagogie féministe ou de ce type d'espace-là de aussi se sentir moins seule. Enfin, moi, je sais que quand je rentre de ces espaces-là, j'ose plus de trucs parce que j'y ai réfléchi alors que j'y avais pas réfléchi avant, que du coup, je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi et que du coup, ça crée une force du fait d'avoir ce soutien, même à distance, même si c'est pas là.
Donc,
physiquement.
Toi, tu dirais, nous, aux pédagogies féministes, voilà ce qu'on fait, quoi.
Oui, bah, en tout cas, ça répond pas directement à la question, mais ça répond au fait d'oser se dire, d'oser s'inclure dans un nous, auquel peut-être, dans lequel peut-être je me serais pas incluse si j'avais pas vécu ça, ou si j'avais pas écouté ces super émissions de radio, par exemple. Toi qui nous écoutes.
On en pioche un second.
Alors, qu'est-ce que tu fais si un élève ou une élève te demande si l'homosexualité est un choix ?
Tu dis que t'as poney et tu sors ? Pardon, ça fait pas avancer le débat, excusez-moi.
Ouais, mais ça montre quand même le premier élan.
Moi, je crois que je renverrai... Enfin, ça dépend de l'âge aussi des enfants. Mais je crois que je renverrai à la question de l'émotion et du vécu... intérieur, c'est quoi l'amour? Est-ce que vous avez déjà été amoureux ou amoureuse? Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Ah, ça fait des papillons dans le ventre ou ça fait ça. Mais alors, est-ce qu'on choisit quand est-ce que ça fait des papillons dans le ventre ou quand est-ce qu'on ressent ça? D'aller vers de quoi on parle en fait.
Ou moi, je pense aussi qu'on pourrait renvoyer à la question de est-ce que c'est un choix d'être hétéro du coup,
ouais.
Et du coup, questionner le fait que pourquoi si c'est un choix, pourquoi 90 ou 95% de la population le fait, ou même dire, enfin, peut-être prendre des exemples de dire dans certains pays, je sais pas, où c'est condamné l'homosexualité, par exemple, est-ce que du coup on peut parler de choix, enfin, tu vois, je sais pas, de renvoyer en tout cas sur des questions autant.
Moi, je pense que je te rejoins dans le sens où je sortirais de la question du choix et plus parler de la contrainte. Et ce qui est différent, ce qui est une façon très très différente. Et du coup, pour ne pas psychologiser la question à outrance et pour voir que c'est avant tout une question sociale et que ce poids de l'hétéronormativité, il dépasse largement la question du choix, quoi.
Et qu'en tout cas, c'est un possible, enfin, du coup, d'ouvrir vers le fait que ce soit un choix ou pas, dans tous les cas, chaque personne peut se donner la réponse qu'elle veut à cette question-là, mais en tout cas, que c'est quelque chose qui est possible, et voilà, et que si cet enfant se pose ces questions-là, c'est possible qu'il ou elle les expérimente, et que... Enfin, voilà.
Et moi, je crois que... Mais c'est sûrement le positionnement d'enseignement, mais... Enfin, tu vois, en faisant de la socio, je suis amenée à historiciser, en fait. Je crois que j'historiciserai. Enfin, je crois que je dirais, c'est une question de maintenant, en fait. Est-ce que c'est un choix ? Ça a été un outil, à un moment, dans les luttes de l'homosexualité, de dire, on n'a pas le choix, on est né comme ça, on choisit pas, nanana, et de dire, bah, c'est marrant, voilà, pour les homosexuels, à un moment, ça a été utile de dire, on n'a pas le choix. Et pour les femmes, à un moment, ça a été utile de dire, on n'est pas femme, on le devient, quoi. Alors, comment on tient les deux ? Enfin voilà, je crois que j'historiciserai, que je dirais c'est un moment de l'histoire des homosexualités, de leur visibilité, de leur lutte, quoi. Je dirais en tout cas, c'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que en ce moment, t'es pas le seul à te la poser, quoi. On en fait un dernier avant de peut-être conclure.
Je lis une autre situation. Le fils Le fils d'une copine rentre du collège et dit que ses camarades se sont moqués de son père, qui est trans, et qui est allé le chercher au collège la veille. Et donc, je pense qu'on ferait quoi ? Alors, de quelle position si on était proche de cette copine ? Si on était une amie à qui elle confiait cette histoire-là ?
Qu'on ferait ? Ou qu'on était là à ce moment-là aussi.
Ah oui.
La première chose que je ferais, c'est déjà de l'écouter. De voir qu'est-ce qu'il touche et de le laisser exprimer peut-être sa colère, sa frustration, sa tristesse, son désarroi, peut-être son désespoir. Enfin, j'imagine qu'il est traversé par plein de choses. Et puis dans un second temps, peut-être oui, de parler de l'hétéro-cis-sexisme qui traverse la société, de lui donner des éléments de réflexion. Surouvrir les possibles, quoi. Trouver des moyens dans la discussion. C'est difficile, là, hors sol, de trouver exactement les arguments. De renvoyer à cette question de l'ouverture du choix des possibles, quoi. Bon, voilà, c'est ce qui me vient là, maintenant.
Moi, je pense que je proposerais de voir dans quelle mesure c'est possible, mais essayer de trouver des alliés auprès de l'équipe enseignante pour aussi se dire, qu'est-ce que on peut proposer ou de voir s'il y a, je sais pas, des associations d'éducation populaire qui travaillent sur ça ou des personnes extérieures qui pourraient intervenir. Enfin, de proposer des possibles auprès des enseignants, enseignantes de l'établissement pour dire, il y a ça qui se pose, de faire un sujet de ça qui soit pas directement relié sur cet enfant-là et ce qu'il vit. Et ce que vit sa famille, mais du coup de poser la question plus largement et de faire de cet événement-là quelque chose qui puisse ouvrir plus largement, quoi.
Ouais, et pour compléter, enfin, je te rejoins pas mal sur ce que tu viens de dire, et pour compléter au niveau de la cellule familiale, peut-être de voir si, enfin, avec cet ado, essayer de faire la différence entre les vrais copains et ceux qui en sont pas vraiment. Est-ce que les moqueries venaient vraiment des copains, ou est-ce que c'était plutôt l'ambiance de classe, tout ça. Et si c'est vraiment des amis, déjà faire le tri un peu. Et si c'est vraiment des amis, peut-être en discuter, ouvrir un espace de parole. Alors déjà là, ouais, au niveau de l'établissement, mais peut-être au niveau de s'il a quelques copains qui se posent des questions autour de ça, d'ouvrir un espace de parole avec les copains, copines qui se posent des questions autour de ces questions de transidentité ou questions d'identité de genre. Là, on pourrait être des alliés si on était l'ami de cette maman en disant, si tu veux, on reçoit les 4, 5, 10 copains qui se posent des questions et on fait une discussion parallèlement à ce qui se passerait dans l'établissement. Quoi.
Et avant de se quitter, on peut peut-être remercier Sophie qui a assuré la technique sur l'ensemble de ces 3 épisodes et qui fait un big up dans le studio de régie, et aussi Fréquence Paris Pluriel qui nous a prêté le studio toute la journée aujourd'hui. Voilà, merci.
Pop, pop.
Merci.
Que quieres esa unidad de tu mami, yo te